DW. Émission spéciale.
Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'écouter la radio internationale allemande. Nous sommes le jeudi 13 mai 2021, jour férié en Allemagne, en raison de la fête chrétienne de l'Ascension du Christ. Et nous vous proposons pour l'occasion une émission spéciale sur l'électricité en Afrique. En effet, c'est la période des délestages et coupures répétées dans plusieurs pays. Une situation que vivent mal les populations. Dans la prochaine demi-heure, nous ferons un audit de la situation de l'électricité. Nous vous ferons écouter des interviews, des reportages qui témoignent de son accès difficile dans différents pays. Nous parlerons bien sûr aussi des efforts qui sont entrepris pour une meilleure distribution de l'électricité. Et on ne peut pas parler d'électricité sans évoquer toutes les solutions que le continent essaye de trouver pour développer le secteur des énergies renouvelables. C'est Delali Sakpa au micro, soyez les bienvenus. Et pour nous accompagner durant cette demi-heure, le docteur Léonide Michel Saint-Saint, vous êtes docteur en économie énergétique, fondateur de ARES et cofondeur de MyJouleBox. Vos structures spécialisées en énergie solaire se veulent être un tremplin pour le développement du continent en matière d'énergie renouvelable. Bienvenue à vous aussi dans cette émission.
Bonjour et merci pour cette opportunité d'échange.
L'Afrique regorge d'un potentiel immense en matière d'énergie. Les énergies non renouvelables dans un premier temps qui englobe l'énergie nucléaire et l'énergie fossile, qui d'ailleurs est la plus utilisée sur le continent. L'Afrique détient par exemple 7,5% des réserves mondiales du pétrole brut, principalement concentrées en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous avons toutes les énergies renouvelables, que sont le solaire, l'éolien, l'hydraulique, qui sont l'avenir du monde dans un souci de protection de l'environnement. L'énergie reste pilier fondamental du développement économique, politique et social, demeure toutefois un des principaux défis auxquels les pays du continent sont confrontés. En effet, la majorité se heurte à un manque important d'accès à l'énergie. Les habitants de différentes villes africaines n'ont toujours pas un accès convenable à l'électricité et l'État est souvent pointé du doigt. Nous prenons l'exemple du Tchad où de nombreux opérateurs économiques et ménages de la capitale dénoncent des coupures intempestives d'électricité. Une situation qui dure depuis quelques mois et qui n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale.
Ça fait presque une semaine qu'il n'y a pas d'énergie. Là. Il faut que l'État vraiment il vous revoie encore ça. Nous sommes les débrouillards. Ça bat de ça qu'on a envie. Deux semaines, trois semaines, il n'y a pas d'énergie. Là. C'est la mort seulement.
Gilles Ngo est un jeune Camerounais propriétaire d'un atelier de soudure implanté au quartier Chagua dans la commune du 7e arrondissement de la capitale tchadienne. Il est souvent privé d'électricité, ce qui rend difficile le fonctionnement de son atelier. Mais il n'est pas le seul. De nombreux autres artisans ou restaurateurs doivent travailler dans ces conditions difficiles. Comme Ali Abouja, le propriétaire d'un restaurant situé au quartier Moursal dans la commune du 6e arrondissement.
La question des délestages d'électricité nous rend vraiment la vie difficile ici au restaurant. Des fois, on fait deux jours ou trois jours sans électricité depuis presque six mois. Pour maintenir nos clients, on utilise parfois le groupe électrogène. Mais là, ça ne nous arrange pas parce qu'on fonctionne à perte. Les dépenses pour acheter du carburant sont 10 fois plus chères que les autorités trouvent une solution.
Ousmane, détenteur d'une boutique d'abonnement de Canal Plus au quartier Abena, dans la commune du 7e arrondissement, est aussi dans la même situation. Dans ce quartier, l'électricité arrive tard dans la nuit et est coupée tôt le matin.
C'est vraiment difficile pour nous quand il n'y a pas l'électricité. Les clients, quelquefois, certains viennent avec leur décodeur ou bien la carte. Afin qu'on branche, on fait l'abonnement. Dès que l'image arrive, d'abord, on leur donne. Mais dès qu'il arrive que s'il n'y a pas l'électricité, ils préfèrent mieux de rentrer. Et l'électricité ne vient que tardif le matin, à 6 heures là, ils prennent. Donc, dès 3 jours d'abord, on trouve l'électricité une fois dans notre coin ici à Abena. Maintenant, on n'a pas assez de clients comme avant et les conséquences sont beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent pour payer la location.
Les familles non plus ne sont pas épargnées. Claudine, une veuve que nous avons rencontrée au quartier Walia dans la commune du 9e arrondissement, dénonce le manque de volonté politique pour trouver une solution à ce problème.
Moi, je pense que c'est sciemment qu'ils font ça. Pourquoi dans les quartiers riches, il y a de l'électricité 24 heures sur 24, mais pas dans nos bas quartiers ici? C'est inadmissible qu'après plus de 20 ans d'exploitation de pétrole, que le pays ne soit pas en mesure de donner de l'électricité à sa population. Il n'y a pas de volonté seulement.
Nous avons tenté d'avoir la réaction des responsables de la Société nationale d'électricité sur cette situation, mais sans succès. Selon certaines sources, cette pénurie est due à la vétusté des machines et des groupes électrogènes qui sont presque tous en panne. À ceci s'ajoutent les branchements anarchiques et le non-paiement des factures de consommation. À ce jour, la Société nationale d'électricité attend de l'État tchadien plus de 100 milliards francs CFA correspondant aux factures impayées de consommation d'électricité. Blaise Darius Tonandiamena, pour la Deutsche Welle.
Alors, docteur Saint-Saint, comment expliquer ce manque d'électricité criant dans nos pays?
Merci, c'était des interviews très riches. Et je pense qu'à travers ces différents échanges qui viennent du terrain, j'ai noté deux points capitaux. Le premier, une dame a parlé de volonté. L'accès à l'énergie aujourd'hui, ou encore plus avant, c'est vraiment une question de leadership et de volonté. Dans les pays que nous qualifions de développés, vous voyez que depuis bientôt 100 ans, en fait, ça a été de grands programmes volontaristes d'aller dans ce sens-là pour permettre aux populations d'avoir accès de façon équitable à un certain nombre de biens et services, dont l'énergie. Donc pour moi, la situation de l'Afrique tient d'un premier maillon à la question de pauvreté, puisque quand vous prenez le Maghreb et les pays du Sud, vous voyez très bien qu'en moins de 20 ans, certains parmi ces pays-là, le Maroc, la Tunisie, ont réussi des exploits en termes d'électrification. Donc ça veut dire que quand nous en sommes conscients et quand nous y mettons les moyens, nous pouvons y arriver. La seconde problématique pour moi touche au point essentiel d'équilibre financier. Le reportage du Tchad tire l'attention sur les dettes des États ou de certains gros partenaires vis-à-vis des sociétés d'électricité. Malheureusement, la plupart des sociétés d'électricité en Afrique sont déficitaires. Et forcément, si l'argent que vous devez utiliser pour opérer et pour investir, il est dehors chez le client, sans une visibilité à terme sur comment recouvrir ces créances-là, naturellement, vous êtes très limité dans votre expansion. Donc, la situation pour moi est énergétique de l'Afrique subsaharienne. Je peux rapidement la résoudre de ces deux paramètres. La volonté de pouvoir bâtir en fait un secteur équitable, dynamique et répondant aux besoins des populations. Et la viabilité financière de ce secteur-là, de faire face à ses besoins du présent et à ses investissements.
Alors, docteur Saint-Saint, les projets fleurissent partout sur le continent. On peut citer entre autres le cas du barrage Inga 3 en RDC, qui est un projet de barrage hydroélectrique sur le fleuve Congo établi sur le site des chutes d'Inga dans la province du Bas-Congo. Ce barrage devrait permettre la production de 4500 MW, ce qui s'ajouterait aux productions respectives de 350 et 1400 MW de Inga 1 et 2 qui existent déjà sur le site. En 2018, le gouvernement congolais annonçait la signature des contrats avec des entreprises sino-espagnoles pour des études qui devraient conduire à sa réalisation. Pourtant, dans notre prochain reportage, qui nous vient de Kinshasa, les habitants doivent encore patienter pour voir ce projet réalisé et changer leur quotidien. Raison de plus pour trouver soi-même des alternatives. Les habitants, par exemple, se tournent vers l'énergie solaire et les groupes électrogènes pour avoir de l'électricité.
Le courant électrique, nous autres qui sommes loin de la ville, nous n'avons pas ça. Je suis à Kinshasa, mais c'est partout dans le quartier éloigné de la Gombe qu'il n'y a pas de courant.
Crispin Goy est le pasteur d'une église du réveil dans le quartier Badara 3, dans l'est de Kinshasa, où de nombreux habitants sont privés d'électricité. Et ceux qui en ont doivent subir l'alimentation faible et irrégulière que fournit la Société nationale d'électricité SNEL. Certains d'entre eux ont donc décidé de trouver une autre solution. Dans le quartier Mpassa, nous avons rendu visite à Martine Kapinga qui utilise un groupe électrogène. Elle se plaint toutefois de la dépense que représente le carburant.
C'est depuis longtemps que moi j'utilise les groupes électrogènes. Maintenant le problème est que je dépense beaucoup. Je dois acheter du carburant. Chaque jour j'utilise 1 litre.
cette dépense, Basile Kabenta, un enseignant habitant Boulambemba, l'a également constaté. Il a donc fini par opter pour l'énergie solaire.
Dès le début, nous utilisions des lampes à pétrole, puis un petit groupe électrogène. Par jour, j'utilisais des litres d'essence. C'est mieux l'énergie solaire parce que là, je ne dépense absolument rien. Dès que vous exposez le panneau sous les rayons solaires, que ça soit trop fort ou que ça ne soit pas fort, mais tant qu'il y a le rayon solaire, vous aurez toujours la lumière la nuit quand vous en avez besoin. La meilleure solution est de s'approvisionner avec l'énergie solaire. Vous n'allez rien perdre.
Il suffit de s'acheter un panneau solaire, une batterie, un convertisseur et d'autres accessoires pour s'alimenter, comme l'explique Patrick Loubaké du quartier Bel Air.
Nous n'avons pas beaucoup de choses à utiliser avec du courant. On a que la télévision et la radio. Et ça marche bien si on a bien chargé. Dès qu'on a bien chargé les batteries, on utilise facilement et très efficace encore. Ça marche très bien. Chez nous, on n'a pas de délestage.
Le délestage, c'est le fait de couper l'électricité dans un quartier pour une certaine durée afin d'en alimenter un autre. Ce que les Congolais ont toujours reproché à la SNEL, selon toi, à Salomo, un autre habitant de Badara 3.
En tout cas, les courants d'ici, chez nous au Congo, c'est très difficile. Tu peux avoir du courant par semaine, peut-être deux fois, ou bien quelques heures. Mais le système solaire, ça vient de Dieu. S'il n'y a pas la pluie, en tout cas, vous êtes à l'aise.
Certaines entreprises ont profité de la situation pour se positionner sur ce marché, mais leurs clients sont satisfaits. Pasteur Crispin Goy est l'un des clients de Orange Énergie.
On est venu m'installer cela quand je suis allé m'abonner. Je paye chaque fin du mois. Pendant la journée, le batterie reçoit l'énergie. Alors le soir, je peux voir ma télévision et la lumière pour ma parcelle.
Le manque d'électricité en République démocratique du Congo contraste avec l'immense potentiel hydroélectrique du pays qui est de 100 MW. Et justement, la solution demeure l'énergie renouvelable. Jean-Noël Bamouizé à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Vous aussi, docteur Saint-Saint, investissez dans le solaire. Quel est son avenir? Et pourquoi tous les pays africains ne se tournent pas vers elle? Nous avons le soleil, nous avons les conditions qui favorisent sa production. Qu'est-ce qui coince?
Non, rassurez-vous, rien ne coince. Hein. Comme dans beaucoup d'autres domaines, l'Afrique fait son bout de chemin. On peut trouver effectivement que la dynamique d'accroissement est faible parce qu'il y a plusieurs autres paramètres aujourd'hui à prendre en compte. Les paramètres de financement, les paramètres de ressources humaines et les paramètres de formation. Vous voyez, quand vous prenez les chiffres à l'échelle mondiale, même dans le solaire, aujourd'hui, l'Afrique ne représente même pas 1%. Et c'est ce qui nous interpelle étant africains, étant entrepreneurs africains et étant surtout bâtisseurs de cette Afrique-là. Parce qu'il ne faut pas juste que nous soyons des consommateurs. Parce que si nous n'étions que des consommateurs, au final, le potentiel pour moi de l'énergie solaire en Afrique ne serait pas révélé comme on le souhaite. L'autre aspect important soulevé dans la vidéo, dans l'audio, concerne l'utilisation expliquée facile de l'énergie solaire. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire tout ce qui est technique implique quand même le respect d'un certain nombre de savoir-faire, de mesures à prendre, et il ne faut surtout pas que la vague de développement des énergies renouvelables s'accompagne avec une vague de promotion de la qualité ou de manque de savoir-faire. Parce que ces deux paramètres-là risquent d'affecter davantage les clients qui vont développer une sorte de réticence. Hein. Nous le voyons au Bénin, nous sommes passés par là il y a quelques années vis-à-vis de ces nouvelles formes d'énergie.
Ces énergies fossiles qui ne sont pas renouvelables et sont dommageables pour l'environnement semblent être vraiment un choix pragmatique. Raison pour laquelle, malgré les risques, des projets de grande envergure restent d'actualité. C'est le cas du méga projet de Total en Mozambique. Depuis 2010, le groupe français y fait des investissements importants. Après la découverte de quantités de gaz naturel dans le bassin de Rovuma, au large des côtes nord du Mozambique. On estime la découverte à près de 2 milliards de mètres cubes de barils de gaz naturel, ce qui équivaut à 12 milliards de barils de pétrole. Le projet est actuellement mis en pause pour des raisons de sécurité, plus précisément les attaques djihadistes dans la région. Mais pour Total, ce projet reste possible. Et le groupe espère reprendre les travaux au plus tard en 2023. Le projet devrait permettre une production conséquente qui répondrait à la demande mondiale croissante d'une source d'énergie dite durable. Pour comprendre les enjeux, j'en ai parlé avec Ngie Ayouk, qui est président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, PDG du conglomérat panafricain de droit des sociétés Centurion Law Group et auteur de plusieurs ouvrages sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique.
This project would change so much in Mozambique.
Ce projet changerait tellement de choses au Mozambique. Vous êtes dans une position où vous allez avoir une quantité incroyable d'emplois qui vont être créés. N'oubliez pas, le Mozambique est un pays africain très pauvre et a besoin de ces emplois pour ses citoyens, pour faire croître l'économie, pour bouger à nouveau. Le gaz du Mozambique pourra alimenter l'Afrique du Sud, où l'on constate de nombreuses pénuries d'électricité. Des pays enclavés comme le Zimbabwe pourraient bénéficier de cette énergie. Et des pays pauvres comme le Malawi pourront bénéficier de ce marché de 300 millions de personnes en Afrique australe. Le Mozambique pourrait être l'énergie qui servira de catalyseur au développement d'une révolution énergétique dans cette région. Et c'est une chose que nous ne devons pas ignorer.
Dites-moi, Dr Ayouk, cette source d'énergie est-elle une alternative viable pour d'autres pays du continent ?
Je pense que la grande opportunité ici est d'examiner l'opportunité, par exemple, pour l'Afrique du Sud de passer des centrales électriques au charbon au gaz, tout en étant capable de contribuer à l'assainissement de l'environnement, mais aussi, en même temps, d'obtenir une énergie vraiment moins chère, abordable et fiable grâce au gaz. Mais d'un point de vue plus général, cela ouvre la voie à l'arrivée des énergies renouvelables sur le marché. Ce que je fais, ce sont des énergies renouvelables à petite échelle. Parce que l'une des grandes choses que vous réalisez en Afrique, c'est que vous ne serez pas en mesure de voir certains des projets renouvelables d'un milliard de dollars arriver en Afrique. Nous devons donc ouvrir la voie aux énergies renouvelables à petite échelle qui permettront de remplacer le charbon et de le remplacer rapidement, plus vite, pour des utilisations énergétiques moins chères, efficaces, fiables et abordables.
Alors, docteur Sinsin, que pensez-vous de ce que Monsieur Ayouk dit sur le sujet?
Écoutez, moi je suis, je dirais, un ardu défenseur de l'énergie sous toutes ses formes, dans la mesure où il faut piloter avec raison, soit sur des enjeux sociaux, économiques ou politiques. Quand vous avez une femme sur un lit d'accouchement, vous ne lui dites pas quelle forme d'énergie en fait il faut pour que le centre de santé tourne. Vous lui dites non. On veut qu'à partir de ce jour, tous les centres de santé aient l'énergie pour que nous ne connaissions plus des dommages comme on en a connu dans le passé. Le gaz sous ses différentes formes, GNL ou gaz industriel comme cela, ont une plus-value forte en Afrique où quand vous regardez en termes de demande, de besoin, les chiffres sont encore très, très, très bas. Effectivement, en termes de bilan carbone, le gaz peut se taguer d'avoir quand même un bilan pas très mauvais, quand bien même c'est une source fossile. Ce que je peux dire de ce point de vue, c'est que en Afrique, nous devons savoir poser des diagnostics en vue de prendre des décisions et assumer nos choix. Aujourd'hui, le principal souci, il est surtout lié à l'accès. Et nous avons une panoplie de solutions à partir du renouvelable. Donc, le gaz est un bon substitut, comme il a été dit dans le documentaire, pour commencer par débrancher des centrales thermiques, diesel, gazoil, des centrales charbon, et avancer la marche progressive vers les énergies renouvelables. Parce que vous savez, d'un point de vue économique, quand on parle de choix énergétique, on parle de mérite order. Le meilleur étendeur, ce sont les choix économiques que vous faites, en appelant chaque source d'énergie en fonction de son coût et de sa disponibilité. Bon, ça oblige en fait à avoir une place stratégique du gaz dans les parcs de production de nos centrales énergétiques.
Après avoir donc passé en revue tous les enjeux de la quête à l'énergie en Afrique, il serait de bon ton d'évoquer toutes ces avancées dans cette mutation, des transformations concrètes vers ces énergies renouvelables ouvertes que l'Afrique veut maîtriser. Certains pays dans la sous-région, comme le Sénégal, se sont quant à eux tournés vers l'énergie éolienne.
C'est un apport de taille pour le réseau électrique du Sénégal. Le parc éolien de Taïbandiaï, dans la région côtière de Thiès, alimente plus de 2 millions d'habitants en électricité. Une avancée importante selon Cheikh Amadou Bambasso, expert des nouvelles technologies et des énergies renouvelables.
Il y a véritablement une amélioration et une volonté politique vers la promotion des énergies renouvelables dans un contexte, bien sûr, de changement climatique.
Construite au bord de l'océan Atlantique, la centrale éolienne de Taïbandiaï est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Avec ses 46 éoliennes, elle fournit depuis 2020 environ 158 MW d'électricité, soit 15% d'énergie supplémentaire dans le réseau énergétique national. Cet apport permet donc d'améliorer l'accès des Sénégalais à l'électricité, mais chez Amadou Bambasso rappelle que cette possibilité n'est pas encore étendue à tout le pays.
Le parc éolien gagnerait à être étendu un peu partout sur le territoire sénégalais. C'est bien d'aller vers les énergies renouvelables, mais c'est bien aussi d'aller vers une couverture nationale. Il y a encore aujourd'hui des zones sur le plan national qui ne bénéficient pas encore de l'électricité.
Le Sénégal, grâce à sa position géographique, bénéficie des vents de l'océan Atlantique. Selon Morga Sama, économiste et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le pays gagnerait à faire la promotion de l'énergie éolienne dans les pays voisins.
Nous sommes dans un pays où nous avons vraiment l'obligation d'investir dans les énergies propres. Ça va réduire drastiquement la facture énergétique, donc ça participe à améliorer la balance commerciale. Et au-delà, ça fournit de l'énergie propre. Donc je pense que les arguments ne devraient pas manquer pour vraiment convaincre nos concitoyens africains à investir dans le domaine de l'énergie renouvelable.
Plus le Sénégal augmente sa capacité à produire de l'énergie éolienne, plus il réduit le poids de l'énergie fossile dans son mix énergétique. Ceci alors que le pays exploite d'importants gisements pétroliers offshore découverts il y a quelques années. Robert Adé, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
En fait, aujourd'hui, l'Afrique ne doit se mettre aucune forme d'énergie de côté parce que le besoin est là et c'est à nous de pouvoir bien choisir et assumer. Vous voyez, la première forme d'énergie, c'est dommage, hein, personne n'en parle, on parle toujours de renouvelables, c'est la biomasse énergie parce que nous utilisons l'énergie avant tout pour les besoins de cuisson et d'éclairage. Donc, il y a des process d'optimisation à faire dans ce sens-là aussi. Donc, forcément, l'énergie éolienne a son potentiel dans certains pays, comme la géothermie, comme le solaire ou comme la cuisson. Voilà.
Le dernier mot, docteur Saint-Saint. Comment arriver à ce stade où nos populations pourront finalement avoir un accès raisonnable à l'énergie, à l'électricité?
Électrifier l'Afrique, ça implique déjà de savoir ce que nous voulons et où nous allons. Si nous restons dans une position de consommateur, on va nous électrifier. Et demain, nous serons encore les premiers à crier au scandale. Électrifier l'Afrique, ça implique de savoir ce qu'une minute de coupure d'électricité coûte à nos mères, coûte à nos sœurs, coûte à nos frères, coûte à nos artisans. Électrifier l'Afrique, ça revient à savoir que si nous voulons bâtir un demain vertueux pour nos enfants, nous devons assumer les bons choix en termes d'empreinte écologique pour comprendre qu'il ne s'agit pas que de la question d'avoir de la lumière chez soi, non. Il s'agit de savoir que les formes aujourd'hui de production sont vertueuses, sont de plus en plus compétitives et surtout que le transfert de technologie ne soit plus des mots. Oui, en Afrique, on a le potentiel de pouvoir faire aussi. Vous voyez, au Burkina Faso, il y a une usine d'assemblage de panneaux solaires. Au Bénin, nous nous mettons en place une très grande chaîne de valorisation des produits dans leur après-vie. En Côte d'Ivoire, on fabrique des câbles électriques aussi. Au Maroc et en Tunisie, ainsi de suite. Il faut aussi savoir mettre les opportunités africaines en avant. Bien sûr, le marché n'est pas encore suffisamment mûr. Bien sûr, il y a un problème sur le pouvoir d'achat, mais on ne peut pas juste rester dans une posture où on pose des diagnostics et où on voit les solutions venir d'ailleurs. Nous devons être nous-mêmes la solution que nous écrivons. Voilà.
Ce sera le mot de la fin. Merci Dr. Saint-Saint pour votre participation à notre émission. C'était notre émission Électricité. Si elle vous a plu, parlez autour de vous et envoyez-nous vos questions à DB Français. Et envoyez-nous aussi vos réactions.